Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité pour la troisième semaine sera Frédéric Lordon, chercheur au CNRS. Alors voilà déjà deux semaines que Frédéric Lordon nous parle des mouvements des capitaux, des causes et des incidences de ceux-ci. Et puis on était tous là frénétiquement à gratter le tapis en se disant « mais il nous a toujours pas parlé du slam ». Et bien voilà, on va y arriver, toujours dans le même contexte, un petit bar, du bruit par-ci, par-là, et puis un invité pas toujours facile à manier, vous allez encore en avoir la preuve, d'autant plus qu'il parle tellement qu'il n'y aura pas de pause. Alors j'étais à la fin de quelle émission c'était, ça devait être à la numéro 1. Normalement on devait être tous au bord du suicide absolu. Parce que tu avais fini l'émission, ou ce qui va faire une émission normalement, sur l'idée qu'il n'y avait rien à faire, que les forces avaient été déchaînées, que franchement c'était le summum de l'horreur, il n'y avait pas de solution. Voilà, on allait dans le mur mais il n'y avait pas de frein quoi. Et puis, enfin quand même, t'aurais pas...
Une petite idée en stock ou deux? Je vais te faire un aveu. Pendant très longtemps, faute des moyens de penser autrement, j'étais un adepte de la thèse de la collision, quoi. Mais ça, c'est évidemment, on peut dire ces choses-là qu'avec la distance académique. Mais il n'empêche, moi, je retiens de mes lectures de Marx que la modalité privilégiée par l'histoire pour régler les grandes contradictions, et notamment celle du capitalisme, c'est la convulsion. Il y a plein de sociétés où ça s'est vu, hein, et même récemment. Je veux dire, moi, j'ai été assez marqué par ce qui s'est passé en Argentine en 2001, qui n'est pas une crise de la finance actionnariale à proprement parler, mais qui est incontestablement une crise de la finance déréglementée. En l'espèce, c'est la finance dans son compartiment de marché des titres de la dette publique, marché des changes, etc. Mais peu importe. Or, tu as vu comment ça s'est terminé en Argentine. Assez mal, hein. Bon. Et je suis toujours... contradictoirement peut-être, très impressionné par la récurrence des crises, des crises de très grande ampleur que traverse le capitalisme depuis que la libéralisation financière a été opérée, sans pouvoir m'ôter de l'idée que ça n'est pas parce que toutes ces crises ont été successivement rattrapées qu'il n'en surviendra pas un jour qui, cette fois-ci, mettra tout par terre dans un grand fracas, quoi. Je veux dire, un grand fracas économique et social, des destructions monumentales de capital, des ruines d'une ampleur jamais vue, bon. Alors, évidemment, je t'accorderai sans difficulté que c'est pas une perspective extrêmement réjouissante, et c'est aussi la raison pour laquelle il est utile de se demander si il serait pas par hasard possible de trouver un truc ou deux qui permettrait d'éviter cette course à l'abîme qui me semble autrement vouée à se produire, parce que je veux dire c'est là un enseignement assez fermement établi de l'histoire économique. Les marchés financiers déréglementés portent en eux une instabilité intrinsèque que rien ne parvient à contenir définitivement. Bon, donc ils sont porteurs d'un potentiel de catastrophe qu'on peut réguler un certain temps, mais qui finit toujours par faire résurgence et par nous déborder. Alors, il se trouve que, avec un peu de pression amicalement mise par l'équipe de l'autre campagne, il m'est venu à l'idée que... il était possible de songer à quelque chose qui, sans, si tu veux, je vais pas nous inventer le capitalisme de nos rêves, ça va sans dire, mais qui pourrait modérer quand même quelque peu ces enchaînements tout à fait pénibles dont j'ai parlé à l'instant. Et encore une fois, cette idée procède de l'analyse que j'ai faite précédemment, c'est-à-dire que le nœud du problème se situe exactement dans la finance actionnariale et dans le fait que son désir n'étant plus limité par rien, elle l'impose sans aucune concession à tous les autres acteurs de l'économie, capital industriel en tête et salariés en bout de course. L'idée est donc la suivante. À partir du moment où on trouverait le moyen de mettre, par des voies éventuellement réglementaires, une borne à ce désir autrement illimité de la finance. Alors par le fait même, on ôterait toute incitation à la surexploitation des entreprises, c'est-à-dire en bout de course des salariés. Eh bien cette borne, je l'appelle le SLAM. Alors le SLAM, c'est un acronyme qui veut dire Shareholder Limited Authorized Margin, puisque l'anglais est la langue de la finance, ça va sans dire. Et puisque aussi également, avoir un acronyme anglais, finalement, c'est une bonne base pour, le cas échéant, internationaliser cette idée. Et puis il y a aussi que j'avais cherché longtemps un acronyme français qui pourrait marcher. J'avais cherché autour de VLAN ou autour de BAF. Et puis ça fonctionnait pas. Tandis que SLAM, ça fonctionne pas mal. Alors en bon français, Shareholder Limited Authorized Margin, ça veut dire marge actionnariale limite autorisée. Et c'est bien ça l'idée. L'idée, c'est d'imposer un seuil à déterminer d'une certaine manière. Je vais t'en parler. Un seuil de rentabilité actionnariale maximale. Et si cette rentabilité-là est franchie, alors un prélèvement fiscal ratiboise tout ce qui dépasse. Ça fait autant qu'il tombe dans la poche de l'État, finalement, c'est pas plus mal, mais je m'empresse de dire que le but de la manœuvre n'est pas du tout de l'ordre d'une politique fiscale. Si tu veux, c'est un peu la même chose que dans son genre que l'impôt auquel songeait la taxe de Tobin. Hein. D'une certaine manière, on pourrait même presque dire que c'est une mesure qui aurait pleinement atteint son but si l'impôt qu'elle rapporte finissait par devenir égal à zéro. Voilà, on serait dans un univers stabilisé où les rentabilités actionnariales ne dépasseraient pas le seuil en question. Bon, alors le seuil dont je parle, comment est-ce qu'on le détermine? Eh bien finalement, en revenant à une idée assez rustique de la théorie économique qui veut que si la rémunération du travail c'est le salaire, la rémunération du capital c'est le taux d'intérêt. Et tu vois, par les temps qui courent, le taux d'intérêt c'est quoi? C'est 3%. C'est déjà plus humain que les 15, 20, 25% de ROE que la finance exige des entreprises industrielles. Alors 3%, tu y rajoutes une petite prime de risque qu'on peut calculer adéquatement pour toutes les entreprises cotées en fonction de leur taille, de leur secteur, etc. Oh, ça nous met dans les 6-7%, ça demeure raisonnable. Et je n'emploie pas le qualificatif raisonnable par hasard, car c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'arraisonner la finance, c'est-à-dire de la ramener à la raison. De la ramener à la raison en lui imposant une borne qu'elle ne pourra plus franchir. Et donc voilà, la borne, c'est ça, c'est le SLAM, c'est ça ce seuil, hein, cette marge limite actionnariale autorisée. Alors, à quoi ce seuil s'applique-t-il? Il s'applique à la rémunération actionnariale totale. Et de quoi cette rémunération actionnariale totale est-elle composée? Eh bien, de trois choses. Il y a les dividendes. Voilà, c'est ce que les entreprises, c'est la part de leur profit que les entreprises versent, alors sous la forme de transferts financiers directs, hein, sonnants et trébuchants aux actionnaires. Il y a une deuxième composante qu'on appelle les buybacks. Alors les buybacks, qu'est-ce que c'est? C'est l'opération par laquelle des entreprises rachètent leurs propres actions. Alors il y a une finalité à ces rachats d'actions par les entreprises qui est tout simplement d'augmenter leur autocontrôle. C'est-à-dire, après s'être laissé dépouiller, avoir accepté de jouer le jeu de la finance actionnariale à poil dans les marchés, finalement, elles se disent « je remettrai bien un slip ou un t-shirt ». Donc, elles rachètent un peu leurs propres actions. Hein, c'est, voilà. Alors, les rachats d'actions, ça peut atteindre des montants qui sont tout à fait considérables. Hein. Je veux dire, le dernier cas en date qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'entreprise sidérurgique européenne, Arcelor, sur laquelle, comme tu sais, le sidérurgiste indien Mittal entendait faire main basse. Et pendant tout le temps où Arcelor a essayé de se défendre de cette OPA, eh bien, la première idée qui est venue à l'esprit de ses dirigeants, c'était de gratifier leurs actionnaires d'un grassouillet buyback de 5 milliards d'euros. Il faudrait mettre en francs, si tu veux, pour avoir l'idée des montants et de ce qu'on pourrait faire avec en termes d'investissement, de développement. Je te parle même pas d'emploi ou d'augmentation de salaire. C'est évidemment, ça va sans dire. Bon, voilà. Donc, les buybacks sont également des transferts financiers qui sont tout à fait considérables et qui s'opèrent dans le sens entreprise-actionnaire. Bon, ça c'est la deuxième composante. Il y a une troisième composante de la rémunération actionnariale qui est la plus connue, qui ne passe pas par des transferts sonnants et trébuchants, mais qui passe par les plus-values réalisées sur les opérations de cession sur les marchés boursiers. Alors tu prends ces trois choses, les dividendes, les buybacks, les plus-values, et tu rapportes ça au capital action investi par l'opérateur financier qui fait une transaction. Tu as un certain taux de rentabilité, qui est le taux de rentabilité actionnariale à proprement parler, qu'en termes techniques on appelle le TSR, le Total Shareholder Return. Voilà, le rendement actionnarial total, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, ce taux de rentabilité actionnariale total, nous décrétons qu'il ne pourra plus dépasser les 3% actuels du taux d'intérêt, plus un petit quelque chose qu'on appelle une prime de risque. Et tout ce qui dépasse est soumis à prélèvement intégral et obligatoire. Alors j'aime bien dire toutes ces choses-là parce que c'est les gros mots par excellence de l'idéologie libérale, hein, tu vois, impôts, taxes, obligatoires, fisc, c'est de pures horreurs. Il faut surtout pas se priver de les dire parce que on vit dans un monde, si tu veux, où on a perdu l'usage de ces mots et derrière des mots l'usage de ces instruments qui sont pourtant les instruments absolument légitimes de la politique. Je veux dire, on a réussi à nous faire croire que imposer ou légiférer ou réglementer, c'est-à-dire mettre des bornes au désir d'expansion de certains agents, que c'était vraiment le dernier des scandales. Mais non, le dernier des scandales, c'est de laisser faire les agents dominants et de les laisser accroître leur domination et martyriser toujours plus les dominés. C'est ça le vrai scandale. Donc il est temps de remettre les choses qui marchent sur la tête, sur leurs pieds.
Vous écoutez Allegre FM.
Parlez dans le micro, Pascal Poirier.
Moi j'aurais tendance à me dire que c'est plutôt sympathique cet effet de coupage de tête, pour ainsi dire. De sorte d'impôt révolutionnaire, mais vous pensez qu'on peut l'appliquer où ? C'est-à-dire qu'il va falloir attendre que tous les peuples du monde, enfin tous les gouvernements du monde, se mettent d'accord sur le SLAM pour que ça soit mis en œuvre. Et si par hasard vous ne pensez pas ça, tu ne penses pas que ça, autrement je vais me faire battre.
Ah oui, oui.
Et ouais. À quel niveau européen, français, et si c'était par hasard français seulement, avec quelle incidence diverses et variées, il y avait un S à moins incidence.
Oui, j'ai bien compris que c'est un monde plein de risques, donc les incidences sont nombreuses. Bah, alors, mais ça, c'est la question qui, fort logiquement d'ailleurs, vient en tout premier dès qu'on avance une idée de cette nature. Bon. Or, si tu veux, moi, quand je me suis posé la question de savoir, finalement, que faire pour mettre une mesure à la démesure de la finance, La première idée, si tu veux, ou la première clause de mon cahier des charges, c'était trouver quelque chose qui puisse être mis en œuvre à l'échelle nationale. Bon, évidemment, parce que si on envisage quelque chose qui nécessite que le monde entier s'y soit mis, alors c'est très bien, hein, ça nourrit le débat, ça initie un combat politique. Je n'ai rien contre. Les seules causes perdues d'avance sont celles qu'on ne commence pas, pour lesquelles on ne commence pas de lutter. Mais tout de même, on voit bien qu'on n'est pas rendu, hein. C'est particulièrement vrai en matière européenne. C'est-à-dire, la bien nommée charte des droits fondamentaux, celle dont normalement on escompte qu'elle va protéger les individus, place en très bonne position la protection de la libre circulation des mouvements de capitaux. Là, je me souviens que quand j'avais... Ça avait beaucoup fait pour ma joie lorsque je disais la Constitution il y a 2 ans. Ça, je dois dire que j'en suis toujours pas revenu. Et là, si tu veux, il y a des seuils d'obscénité qui sont franchis par les eurocrates, l'âme claire. Et bon, c'est aussi à des choses comme ça qu'on voit dans quel monde on vit. Mais peu importe. En tout cas, une chose est sûre, la libre circulation des capitaux, on n'y attendra pas dans le cadre européen, dans le cadre des traités actuels, puisque il s'y oppose juridiquement, formellement. Et derrière cette force juridique, il y a aussi des forces politiques, puisque à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des États, et particulièrement un, la Grande-Bretagne, pour ne pas le citer, qui a fait de l'industrie financière le fer de lance de sa nouvelle position dans la division internationale du travail. La Grande-Bretagne s'est laissée dépouiller de toutes ses industries, Mais par contre, les services, et les services financiers en particulier, alors là, ça c'est la prunelle de ses yeux, donc il n'y aura pas moyen de leur faire lâcher prise là-dessus. Donc c'est pas par l'Europe que, à court terme, les choses se passeront. Et donc le SLAM a été conçu, ou revendique, ambitionne d'être une mesure susceptible d'être mise en œuvre à l'échelle nationale, simplement. Alors j'entends bien que la première objection qui vient à l'idée, c'est « Mais mon bon monsieur, sitôt que vous aurez dit SLAM, les capitaux vont se barrer comme une nuée de moineaux. » Eh bien soit, est ma réponse, qu'ils se barrent, ils ne nous manqueront pas. Parce que la vérité, c'est que si la thèse officielle de l'idéologie boursière, c'est que sans la bourse, pas de financement des entreprises, alors cette thèse est une contre-vérité. Évidemment, pour s'en apercevoir, il faut faire des calculs un peu plus complets que simplement regarder les statistiques de capital action qui s'investissent tous les ans dans les entreprises françaises, car, on en a parlé tout à l'heure, la bourse, c'est une pompe à la fois aspirante et foulante. C'est-à-dire que oui, de temps en temps, elle souscrit à des émissions d'actions nouvelles, mais oui également, et pas qu'un peu, elle ne cesse de pomper du cash des entreprises. Sous quelle forme? Je l'ai dit tout à l'heure aussi. Des dividendes, des buybacks, ça fait des sommes qui sont tout à fait colossales. Donc pour se faire une juste idée et avoir la juste mesure du service institutionnel rendu en quelque sorte par cette institution particulière qui est la bourse ou que sont les marchés d'actions, encore faut-il savoir quelle est la contribution nette de ces marchés au financement des entreprises. C'est-à-dire en ayant fait la soustraction entre ce que la bourse apporte comme fonds nouveaux et ce qu'elle retire sous la forme de prélèvements tributaires, pour ainsi dire. Or, que voit-on? Eh bien qu'aux États-Unis, cette contribution nette est devenue négative, et pas qu'un peu. Ce qui signifie que la bourse pompe plus de cash des entreprises qu'elle ne leur en apporte pour financer leur projet d'investissement. Ah mais alors si c'est ça, franchement, la bourse, merci. Je veux dire, si le but de la manœuvre, c'est de dépouiller davantage les entreprises qu'on ne les dote en capital, je pense que tout calcul fait, on peut se dire que la bourse est en train de devenir une institution dispensable. Alors moi, je ne vais pas jusqu'au degré de radicalité qui consisterait à la fermer et à y mettre le feu, mais je demande simplement qu'on prenne la juste mesure du service institutionnel effectif qu'elle nous rend. Or, celui-ci, visiblement, est d'une minceur tendancielle. Bon, alors, ça aide à rester calme, hein, si tu veux, quand on avance une proposition comme le SLAM, qui aura au surplus la vertu, me semble-t-il, de nous débarrasser de la plupart des mouvements de capitaux courts. Tu sais, ces allers-retours à très haute fréquence qui ont lieu sur les actions. En venant dans ma belle auto pour te voir cet après-midi, j'écoutais la radio, je ne sais plus laquelle, mais peu importe, puisqu'elles disent toutes les mêmes choses, et qui nous racontait que, très belle séance à la bourse, 11 milliards d'euros de transactions. Bon, il va sans dire que il n'y a pas 11 milliards d'euros qui se sont investis dans des projets nouveaux hein, aujourd'hui, je te rassure. Ce que ça signifie, c'est que la vitesse de circulation de la monnaie est peut-être la plus élevée dans ce marché particulier qui est le marché boursier. Voilà. Et donc que ce marché est en proie à une espèce d'inflation de transactions qui est totalement parasite. Ces mouvements de capitaux courts, ces allers-retours incessants que les fonds et les gestionnaires de fonds effectuent quotidiennement sont de l'ordre d'une pollution spéculative, c'est-à-dire celle dont vraiment le financement des projets de l'économie réelle n'a strictement aucun besoin. Or, le SLAM aurait pour effet de nous en débarrasser, mais là, il faudrait que j'entre un peu plus dans le détail technique des choses pour t'en convaincre, et je suis pas sûr que ça soit possible de le faire. Alors, je profite de l'occasion, tiens, du coup, pour faire un peu de pub gratos, parce que le diplôme qui m'a déjà largement ouvert ses colonnes m'a aussi mis à disposition quelques mégaoctets sur son... j'exagère, hein, sur ces serveurs où il y a un espace blog dans lequel on peut venir discuter du SLAM. Donc je renvoie aux débats qui sont sur cet espace blog pour plus de précision. Tout ceci pour dire que les capitaux fuient, ils ne s'évaporeront pas tous parce que les investisseurs demeurent sous contrainte de diversification non seulement sectorielle mais géographique de leur portefeuille, et il y a quand même quelques sacrés beaux morceaux en France qui continueront de les convaincre à y venir. Mais qu'il y en ait une partie qui s'évapore, eh bien ainsi soit-il.
Aligre FM 93.1.
Allez, 44, hein, blabli, blabla, et blabla, blabla, blabla.
Là, je suis censé trouver une question intelligente là tout de suite.
Oui,
c'est
vite, pas branché. Oui, oui, bip. Ah, mais non, mais si tu veux, j'enchaîne, hein.
Vas-y.
Parce que j'ai même pas besoin de la question intelligente pour continuer. Tu sais, tu mets 50 centimes d'euros dans la fente et blablabla, ça continue. Non, on pourrait continuer cette la discussion technique très longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire là. Je veux dire, ça a été superficiel. C'est normal. Je veux dire, je veux pas. L'écrit d'ailleurs c'est toujours mieux hein, pour aborder les choses techniques. Hein. On a le temps de méditer ça à tête reposée, etc. Donc tu as posé la question de la fuite des capitaux, etc. Bon, c'est l'objection la plus évidente. J'y apporte un début de réponse. C'est pas la seule objection possible, évidemment. C'est tout à fait certain. Cette idée du slam pose un certain nombre de difficultés techniques, de mise en place, dont j'ai déjà idée de certaines. C'est assez amusant d'ailleurs parce que sur cet espace blog dont je parlais, celui du Monde Diplo, il y a aussi celui de l'autre campagne où se sont pointés des gens qui étaient visiblement pas persuadés des bienfaits du slam, mais qui ont joué le jeu de la discussion contradictoire et qui sont arrivés armés d'arguments assez techniques. Donc bon, c'était assez intéressant. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire d'abord que en s'y mettant à plusieurs, ça ira certainement mieux déjà. Donc voilà, tu m'offres une occasion de plus de lancer un appel à des compétences variées qui seront complémentaires des miennes, celles de juriste, de fiscaliste. Bon voilà, et ça déjà, ça permettra de limer quelques arêtes. Et puis je voudrais ajouter encore autre chose, c'est que le slam vaut autant pour la discussion technique à laquelle il peut donner lieu que, dans mon esprit en tout cas, pour ses propriétés d'entraînement politique. Finalement, il s'agirait de créer le même genre de dynamique que ce qu'avait. C'est d'une extrême prétention ce que je vais dire, hein, mais tant pis. Bon, je le dis quand même parce que c'est comme ça que j'ai pas pu m'empêcher de le penser. Voilà, de créer une dynamique qui serait l'équivalent dans son genre de ce qu'a été la dynamique autour de la taxe Tobin. On voit bien que les effets de la taxe Tobin sont allés très loin, beaucoup plus loin que les simples considérations sur sa faisabilité technique, et que c'est une idée qui a entraîné dans son sillage tellement d'autres débat que quand bien même elle est toujours pas là, la taxe Tobin, eh bien ça valait le coup d'en parler. Bon, j'espère que très sincèrement que le slam connaîtra un destin opérationnel plus favorable, mais ceci étant, voilà, c'est l'occasion de reposer le problème de la finance, dont je ne peux pas m'empêcher de dire et de redire qu'il est le problème numéro un des sociétés capitalistes contemporaines. Voilà, ça c'est sûr et certain. Toute discussion qui n'en passe pas d'abord par cette problématique de la finance actionnariale libérée me semble oiseuse. Bon. Donc c'est le problème auquel il faut s'attaquer en tout premier lieu. Alors, si au bout du compte, on s'apercevait que le slam finalement finit par buter sur des objections qui s'avèrent rédhibitoires, une fois qu'on aurait fait sincèrement l'effort de travailler à objecter aux objections, et qu'on finirait dans l'impasse, eh bien alors, ça ne serait pas perdu pour autant. Je veux dire, toute cette discussion ne serait pas privée de bénéfices. Tout simplement parce que là, on aurait la certitude que pour s'attaquer à la finance, il faut s'attaquer plus directement et plus radicalement encore à ces structures, et en particulier à celle de la liberté parfaite de circulation des capitaux. C'est-à-dire là, cette fois-ci, il faudrait s'en prendre aux traités européens eux-mêmes. Mais là, on le saurait pour de bon. Donc ça nous donnerait des bonnes raisons pour attaquer la finance dans ce qu'elle a de plus fondamental. Et je trouve que, voilà, rien que pour ça, c'est un débat qui mérite d'être mené à son terme.
Et oui, donc c'était Des Sous et des Hommes en compagnie de Frédéric Lordon, qui est donc chercheur au CNRS. Alors sa proposition peut sembler quelque peu iconoclaste, pourtant je ne peux que vous inviter à y être vraiment attentif, un petit peu comme on l'avait fait effectivement et comme il le dit lui-même avec la taxe Tobin. Il y a vraiment vraiment à creuser dans cette direction, à faire bouger les choses, parce que ça permet aussi de mieux se rendre compte de la gravité de ce qui se passe autour des mouvements des capitaux. Je vous rappelle qu'il vous a donné l'adresse d'un blog qui est hébergé sur le site du Monde Diplo. Bah, il suffit d'aller dans un moteur de recherche, de taper Monde Diplo, puis à l'intérieur, vous trouverez le blog de Frédéric Lordon. Voilà, pour la semaine prochaine, pour l'instant, je n'en sais rien, donc mystère, à bientôt en tout cas.